avec vous, zéro chômeur.
Je m'appelle Luc Belval, je suis alors, on va mettre en ordre, président de la PES, donc président du Comité solidaire dans les Hauts-de-France, adhérent au VES. Et puis sinon, par rapport à des gens zéro chômeur, je suis un des fondateurs d'Internet de l'Emploi, qui est dans l'expérimentation de la métropole lilloise depuis le démarrage en 2016. Et je suis parti du petit groupe d'animateurs sur la région des Hauts-de-France. Alors, 10-1-2-1, le directeur général de la Fédération de l'emploi demande à être épuisé. Il est repris par des questions de financement. Comme c'est tout de même le nerf de la guerre et que c'est urgent et pas bougeable, je pense que vous avez eu l'autorisation de faire pallier. Et donc, on va faire ça, je vais faire ça tout seul, je vais essayer de pallier. Alors, je ne sais pas comment vous souhaitez fonctionner, si vous en savez déjà quelque chose ou pas du tout. Si on démarre par des questions et qu'on des... Oui, on va faire un tour de table. Oui.
Comme ça, tu sauras qui est concerné.
Oui, oui, absolument. Et puis après, ben, on démarre comme on veut, puis c'est une discussion libre. Alors, petit tour, oui. Une heure, Bruno.
D'accord. Bruno Lallier, coordinateur national du mouvement pour l'économie solidaire. Et assez au courant de ces différents éléments, puisque plusieurs de nos membres ont participé à la première expérimentation. Donc, du coup, on a des exemples de territoires de déjà bien avancés.
Bonjour, Christine Matt, chargée de mission territoire à la PES. Je porte un projet plateforme coopérative. Et je pars d'une intuition que les activités développées à l'intérieur des territoires zéro chômeur vont pouvoir être outillées d'un outil de plateforme numérique, utile, sociale, solidaire.
Xavier Galland de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Ici.
Thibaut Guillon, chargé de mission recherche et transfert à l'Institut Gaudin. Du coup, en regard de curieux, puis je m'étais plus intéressé au rapport d'évaluation justement.
D'accord. Sorti sur.
Hélène Souriceau, moi je travaille plus dans le champ artistique et culturel. Et je viens ici par curiosité sur les questions d'emploi.
Daniel Asselin, du mouvement de la CIGAL, comment on appelle ça, épargne solidaire, au bénéfice des gens qui créent leur entreprise. Et puis, ça m'intéresse cet atelier parce que sur Cluny, il y a un projet qui est un petit peu contrecarré par le manque d'intervention du département.
La question, oui, c'est pas Kaizou.
Sarah Cohen, coprésidente de l'association Ingénieurs sans frontières Agrista. Je travaille particulièrement sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un des ateliers. Et du coup, je suis intéressée par la démarche territoire zéro chômeur et notamment sur les droits à l'expérimentation des collectivités. Et voilà, c'est pour ça que je suis là.
Bonjour, je suis Stéphanie Prien, je suis sociologue à l'université et co-responsable d'un master métier de la culture, développement et action culturelle dans les territoires. Du coup, aussi, les étudiants et les étudiantes vont être amenés à œuvrer sur le développement humain et rencontrer ce type de dispositif ou d'action.
Dominique Jaume, moi je suis médecin retraité donc, et investi dans plein d'associations qui ont globalement, qui sont fondées sur la démarche participative, donc à ce titre, je suis engagée dans l'habitat participatif. Mais là, je suis intéressée parce que impliquée au titre d'un conseil de quartier dans une expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée dans le 20e arrondissement sur des micros, sur deux micro-territoires.
Donc, je suis Isabelle Boyer, je suis coordinatrice du CAC et. Ça m'intéressait à plusieurs titres, mais je cherchais surtout l'articulation. Ça me fait penser à ce qu'a dit Luc Carton aussi vers la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, de libérer du temps salarié aussi pour des choses en commun, en fait, enfin, salarié. Et aussi l'articulation aussi avec ce qui se fait dans les régies de quartier. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une notion de territoire ou de fonctionnement. Ça ne rentre pas forcément en concurrence et qu'il y a des endroits où c'est peut-être mieux une régie de quartier, d'autres endroits c'est peut-être mieux des expériences zéro chômeur. Et qu'en plus, la destinée. Enfin, je pense que je cherche à bien comprendre la différence. Je connais un peu mieux les régies de quartier. Je connais assez mal, en fait, en réalité, les territoires zéro chômeur, mais pour bien comprendre l'articulation des deux. et la spécificité qui correspond certainement plus à un territoire qu'avant.
Laetitia Dejeu, je suis directrice d'une maison des jeunes et de la culture à Rennes.
Ah, d'accord.
Je suis stagiaire au CAC et étudiante en sciences politiques et sociologie.
Ok.
Bonjour, moi c'est Andrea. Je suis étudiante en master en biologie politique. Et j'étais membre de différentes associations.
Bonjour tout le monde, moi c'est Jennifer. Je travaille à la FESEFA, qui est la Fédération des associations d'éducation permanente en Belgique francophone. Et je viens plus là par curiosité.
Moi c'est Jonas, je travaille aussi à la FESEFA. Conseiller en éducation permanente, et moi ça m'intéresse que je crois que le même dispositif existe en Belgique.
Ça a été décidé il y a très peu de temps.
Et donc je voulais un peu voir.
Ouais. Alors peut-être que ce que je vous propose, c'est de dire deux, trois petits mots de cadrage sur ce qui est discuté, et puis après peut-être on part sur les questions-réponses. Alors, je vais vous dire trois mots. Quand je vais illustrer sur ce que je connais, c'est-à-dire les expérimentations qui sont sur la métropole européenne de Lille. C'est un peu atypique sur la métropole européenne de Lille, puisqu'on est considéré comme un lieu d'expérimentation. En réalité, on a deux territoires. Un sur un quartier vertical, dans une ville qui s'appelle Loos, à Lille. Un tout petit quartier de 7800 habitants. Et le deuxième territoire, c'est un quartier encore plus petit, à Tourcoing. Un vieux quartier ouvrier qui doit faire 3500 habitants. Et donc, c'est à peu près là que je vais illustrer. Alors, peut-être dire, sur le cadrage, un, ce qu'il faut retenir et se mettre dans la tête et ne rien lâcher là-dessus. Territoire zéro chômeur, c'est une expérimentation qui se décline différemment selon chaque territoire. Ce n'est absolument pas un dispositif. Et si on veut tuer territoire zéro chômeur, il faut en faire un dispositif. C'est un danger qui nous guette en permanence, surtout en France. Mais il n'y a pas qu'en France. Donc, une expérimentation. Deux, c'est quelque chose qui a des racines de loin dans le temps, puisque c'est quelque chose qui est porté, entre autres, mais principalement par ATD Quart-Monde, depuis, je dirais, 20 ans, mais c'est peut-être plus, et qui repose sur trois piliers. Un, personne n'est inemployable. C'est l'emploi qui doit s'adapter aux personnes. Après. Deuxièmement, personne n'est employable à condition qu'il veuille travailler, évidemment. Deuxièmement, c'est pas le travail qui manque, c'est pas ce qu'il y a à faire qui manque. Il y a des tas de choses qui sont utiles et qui ne sont pas couvertes ni par le marché, ni par les politiques publiques. Donc il y a du travail. Troisièmement, il y a de l'argent, en particulier pour limiter la casse sociale. Et on parle de tout ce qui est allocation, indemnisation du chômage et aides diverses et variées. Et donc, plutôt que d'utiliser cet argent à indemniser de la non-activité, on pourrait peut-être le détourner et utiliser à financer de l'activité. Mais activité qui ne sera peut-être pas rentable au sens classique du terme, mais qui sera utile. Ça, c'est un petit peu les trois piliers de départ. Ça s'appuie sur une loi, sur deux lois. Une première loi qui a été votée en 2016 à l'unanimité. On pourra revenir sur pourquoi l'unanimité, mais à l'unanimité, une loi qui était portée par Laurent Grandguillaume et qui était votée à l'unanimité pour permettre l'expérimentation sur 10 territoires. Lamelle, avec ses deux quartiers, est une des 10 premières expérimentations. Une expérimentation, c'est 5 ans. Et il y a une deuxième loi, votée en 2021, qui reconduit les 10 premiers territoires pour 5 ans et qui permet à au moins 50 nouveaux territoires d'être habilités, agréés, pour mener une expérimentation du même type, quasi. Et promesse d'une troisième loi, qui ne serait pas une loi de généralisation, mais qui c'est une loi de généralisation des expérimentations. Voilà où on en est. À aujourd'hui, en France, il y a 32 territoires en expérimentation. Les 10 premiers et donc 22 nouveaux. Sur les Hauts-de-France, il y a un territoire agréé,
la Melle, avec ses deux quartiers, et on a 19 projets qu'on appelle émergents dans le jargon de TZC, 19 projets émergents, donc, dont certains ont déposé leur dossier pour être agréés. Alors comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut? C'est une expérimentation qui repose sur deux piliers. Un pilier territorial et un pilier entreprise. Le pilier territorial, c'est le plus important. Le pilier territorial, c'est le là où on retrouve les demandeurs d'emploi qu'on appelle dans le jargon des ZC personnes privées durablement d'emploi, PPDE. Chaque bazar, chaque lieu a son jargon. Hein. C'est comme ça. Donc ça, le pilier territorial rassemble des demandeurs d'emploi qui souhaitent travailler, rassemble la collectivité qui se déclare intéressée et porteuse d'un projet TZC et rassemble l'ensemble des forces vives du quartier, associations, entreprises, citoyens et tout ce que vous pouvez imaginer, le banc et l'arrière-banc. C'est ce pilier-là qui va repérer les demandeurs d'emploi, qui va établir une liste, qui va établir les rencontrer, et je reviendrai un peu là-dessus, et qui va donc permettre ensuite l'entrée dans l'entreprise. C'est ce pilier, c'est le pilier territorial, qui est le véritable pilote de l'expérimentation. Mais bizarrement, c'est ce pilier qui n'est pas financé d'après la loi. Et donc, on est toujours en train de bricoler avec des bouts de ficelle, avec de la politique de la ville, avec des associations qui font du bénévolat, avec une petite entreprise qui met un cadre à disposition. On bricole en permanence. Mais donc là, il y a une anomalie dans le fonctionnement actuel. Mais voilà, moi, comment ça fonctionne. Pilier territorial. Deuxième pilier, c'est toujours celui-là qu'on regarde, mais ce n'est pas le plus important, c'est l'entreprise. Entreprise à but d'emploi. Tout est dit dans le titre. C'est l'entreprise dont le but est de créer de l'emploi. Cette entreprise à but d'emploi doit être habilitée par une instance nationale, le fonds d'expérimentation, pour accueillir des demandeurs d'emploi. Et doit accueillir tous les demandeurs d'emploi du quartier qui ont explicité leur souhait de travailler. L'entreprise à but d'emploi ne recrute pas, elle embauche. On ne choisit pas les gens. Les gens sont pris dans la liste de mobilisation, dans l'ordre où ils se sont présentés. Et les salariés disent combien de temps ils veulent travailler par semaine, disent sur quoi ils souhaitent travailler, et ils sont embauchés en CDI, au SMIC. Voilà le principe. Et après, chacun vit sa vie. En amont de l'embauche, souvent, je peux vous dire comment on a fait sur la métropole lilloise, mais dans d'autres territoires, c'est un peu différent. Sur la métropole lilloise, avant l'embauche, quelquefois 6 à 9 mois avant, les demandeurs d'emploi étaient repérés, pas tous, enfin, pas tous, quasiment tous d'ailleurs. Et ce n'est pas les demandeurs d'emploi à la source Pôle emploi. Il faut être au chômage depuis plus d'un an, mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé est un demandeur d'emploi. Des gens qui ont eu des carrières hachées ou qui ont des petits boulots, ce sont des demandeurs d'emploi. Et donc, c'est un nombre beaucoup plus important que ce que comptabilise Pôle emploi. Sur la métropole lilloise, dans le cadre de la mobilisation sur les deux petits territoires, Loos et Tourcoing, avec leur équipe d'animation territoriale, on a proposé aux salariés, aux futurs salariés, des ateliers où ils allaient imaginer leur future entreprise. Donc les activités, comment ils souhaitaient fonctionner, se former éventuellement et commencer à imaginer des choses. Et donc on est bien dans une entreprise de type participatif. Du coup, nous, en particulier sur la MEL, on est un peu des purs et durs là-dessus. Entreprise très participative, avec une hiérarchie très faible, et on demande aux salariés de s'investir le plus possible. Et ça dérange certains qui n'ont pas été habitués ou qui ne veulent pas ou qui sont insécurisés. Donc c'est compliqué. Mais on est sur ce team-là. Donc voilà, et alors que vous dire encore là-dessus, en introduction, sur la MEL, sur les deux types de territoires, il y a actuellement à peu près 140 salariés en CDI, donc, depuis 5 ans, puisque demain, on fête les 5 ans de l'entreprise à but d'emploi et les 5 ans de l'expérimentation. Les premiers contrats ont été signés en juin 2017, voilà, tout juste 5 ans. Et donc, on fête ça demain, avec l'ensemble des salariés, avec des anciens, avec des administrateurs. Bon, voilà, ça devrait être sympathique. Donc, demain, je serai avec eux et pas avec vous. Désolé. Donc, voilà. Alors, les activités, c'est très divers. Hein. Ça va du maraîchage bio à des petits travaux pour les habitants. Alors, on dit petits travaux à domicile, mais ça n'a rien à voir avec l'emploi à domicile. Je pourrais dire comment on a articulé ça. Il y a un gros volet sur le réemploi, la ressourcerie, donner une seconde vie aux objets. Même chose sur un volet couture. Donc, c'est la deuxième activité. Il y a une épicerie solidaire qui s'est autonomisée de la fabrique de l'emploi. C'est le nom de notre BE. Et qui a été repris par une autre, qui a été pris par une autre association qui s'est fait à son tour agréer EBE, association qui s'appelle La Pioche. Et puis ben voilà, vous savez à peu près tout ce qui se passe sur la MEL.
Je trouve que le film Premier Cordé retrace bien les choses quand même.
Oui.
Pour le signaler.
Tout à fait, oui. Ouais.
Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une limite d'âge?
Non, pas de limite d'âge.
C'est-à-dire même quelqu'un qui. Qui approche de la retraite
peut-être. Au contraire, quelqu'un qui approche de la retraite et qui est au chômage, qui souhaite travailler, il a toute sa place. Et on espère qu'une chose, c'est qu'il reste juste au moment où il départ en retraite. Et sur la MEL, on a eu plusieurs départs en retraite. Et on est très contents.
Est-ce que tu peux préciser quel cadre d'activité peut être développé à partir d'un EBE?
Ah oui. On peut développer toutes les activités possibles et imaginables. Ah oui, j'ai oublié de dire deux choses. Oui. Donc on peut développer tout ce qu'on veut, à condition de ne pas être en concurrence avec le marché et les politiques publiques. La notion de non-concurrence étant quelque chose d'extrêmement flou, puisque ce qui est non-concurrentiel dans un quartier peut être concurrentiel dans un autre. Et d'autre part, il faut voir comment se réaliser, à quel prix, vers quelle population. Donc, c'est un petit peu à chaque territoire à définir ses points de repère là-dessus. Mais normalement, pas d'activité concurrentielle. J'ai oublié de dire une chose, c'est que les entreprises à but d'emploi, dès qu'elles recrutent quelqu'un, reçoivent un financement d'un fonds d'expérimentation national qui couvre un peu plus, aujourd'hui un peu plus qu'un salaire au SMIC chargé. Alors pourquoi un peu plus? Parce qu'au salaire s'ajoutent des frais de fonctionnement plus l'encadrement qui n'est pas toujours parmi les demandeurs d'emploi du quartier. Alors des fois oui, des fois non. Et donc il faut pouvoir payer des salaires plein pot, donc un peu plus. Et c'est là-dessus où ce fonds d'expérimentation, normalement à terme, doit recevoir de l'argent venant de l'UNEDIC, du RSA et autres. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Il y avait une enveloppe qui est détachée spécialement là-dessus. Et la deuxième loi a dit que les départements devaient financer obligatoirement à hauteur de 15% de la part de l'État. Et certains départements rechignent, alors sur l'ardoise, le coût, mais encore plus sur le fait que c'est l'État qui leur a imposé une décision. Et donc, ils estiment que ça fait un peu beaucoup après le RSA, après. Et donc, il y en a qui freinent des quatre pieds, ce qui pose des tas de questions, puisque certaines expérimentations risquent de ne pas avoir le jour à cause de ça. Donc ça négocie au coup par coup dans les différents endroits. Voilà.
Et donc vous n'êtes pas financé pour le travail que vous faites en amont?
Alors, moi je suis... Ah non, non. Alors moi je suis...
Votre structure,
je veux dire. Ouais, non, non. L'animation locale n'est pas financée. Alors on a reçu des financements de la métropole européenne de Lille. Mais ça, c'est une volonté locale. Ouais. Donc, c'est parce qu'il y avait un fort soutien politique. Ouais. Il y a eu de l'argent de la politique de la ville. Il y a eu quelques montages. On a capté de l'argent de réindustrialisation venant de la Redoute. Il y a eu un montage qui a été réalisé. Mais actuellement, ce n'est pas financé de façon satisfaisante.
Mais normalement, quand tu rentres dans l'expérimentation, il faut que ce soit porté par la collectivité locale.
Oui, pour que la collectivité...
Et dans le cadre du portage par la collectivité locale, est-ce qu'elle, elle ne prévoit pas de financer l'animation et le montage?
Pas forcément. Pas forcément, ça dépend des collectivités. Et souvent, elles financent plutôt les locaux de l'entreprise à but d'emploi, voire de l'investissement. Rarement de l'animation territoriale. Si bien dans tout ce qu'on peut connaître, l'animation territoriale n'est pas rarement financée.
C'est du bénévolat. Qu'on soit élu, citoyen.
Non, ce n'est pas du bénévolat, c'est un vrai travail. Lorsqu'on mobilise un organisme de formation pour encadrer des demandeurs d'emploi, ce n'est pas du bénévolat, ça. Or, c'est ce qui se passe.
Ça ne fait pas partie du comité local.
Si.
Je sais que par exemple.
Et sur l'OS, c'est un organisme de formation ancré dans le quartier qui est le pilier de l'animation territoriale.
Sur.
Alors ça peut être des associations bénévoles. Mais c'est un cas.
À Colombelle, en Normandie, ils avaient prévu l'accompagnement par l'Ardèze dès le démarrage qui était financé pour faire cet accompagnement-là. Par la municipalité.
Mais chaque territoire va avoir un cas de figure différent.
Oui. Je n'ai pas pensé à demander, il y a Emmanuel, je ne sais pas comment il s'appelle, la tête des quarts mondes, qui est venu nous parler de ce qui se passait à Lyon. Parce qu'ils en sont à
Villeurbanne.
C'est vrai qu'on ne lui a pas demandé.
Mais chaque territoire a ses spécificités. C'est bien pour ça que c'est des expérimentations.
Je trouve qu'il y a un petit côté, quand j'ai vu le film, là. J'avais l'impression que chaque candidat, créait un petit peu son activité. Il n'allait pas être salarié quelque part. Il y a la notion de salarié parce qu'il y a le BE.
Oui.
Mais en même temps, il cherchait à créer son activité un petit peu comme une micro-entreprise, etc.
Les activités sont créées sur les besoins de terrain.
Ils sont sur le besoin du quartier et sur les envies des salariés.
Oui. Voilà, il y a une articulation entre les besoins non couverts d'un territoire et donc des propositions de création d'activités. Mais encore faut-il qu'en face, il y a un salarié embauché par le BE qui soit en articulation avec ce besoin-là. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de projet.
Mais attention.
Les salariés sont des volontaires qui ont participé.
C'est plus compliqué que ça. Parce qu'au départ, on comprend bien. Moi, j'ai envie de faire du maraîchage. Moi, je veux faire de la couture. On va créer deux activités. On comprend bien au démarrage de l'EBE que ce soit comme ça. Mais lorsqu'on est à 100 salariés, qu'il y en a 10 qui tapent à la porte. On ne va pas créer une nouvelle activité. Sinon,
on
peut aussi dire on est au maximum de ce qu'on sait faire.
Et ça dépend peut-être de la gouvernance et de la gestion de l'EBE.
Mais oui, je suis bien d'accord. C'est bien pour ça que je dis que chaque territoire va être différent. Mais il faut faire attention que dans certains endroits, on ne va pas créer à l'infini des activités nouvelles et qu'on va peut-être créer des variantes d'activités. Parce que on peut pas, au-delà d'une certaine taille, ça c'est d'expérience, on s'aperçoit qu'il faut un minimum d'encadrement, que l'autogestion c'est pas si simple que ça, et que ça ne s'improvise pas.
C'est toute la question.
Et que donc, on peut pas multiplier les activités différentes à l'infini.
Ça va. Si c'est pour réagir, il faut que ça ait été dit.
Non, c'est pour rebondir après sur une autre question, donc c'est pas grave.
Moi j'ai 4 questions. Mais je me pose la question des ateliers, comment ils ont été menés.
Les ateliers.
Parce que c'était la question de l'animation territoriale ou pas. De la concurrence, si du coup on se situe sur des activités économiques très locales à l'échelle d'un quartier, parce que le maraîchage, j'imagine qu'il y a d'autres. J'avais une question sur quand tu disais si ça devient un dispositif, ça va tuer l'expérimentation. J'aurais bien aimé avoir des précisions sur ça.
Si on norme les choses, on va priver l'expérimentation de toute sa créativité, son imagination et son adaptation. Réalité des gens et du territoire. Et donc, on va arriver après à évaluer les résultats en termes comme le chiffre d'affaires, combien d'emplois créés, comme on fait dans l'IAE. Et ça, c'est la mort. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine.
Et puis en fait, si on doit sécuriser quelque chose là-dedans, c'est plus les outils qui sont mis en place, par exemple le BE, comme statut juridique, par exemple, voilà, y a un certain nombre de choses qui peuvent être structurantes et du coup pérennisées dans le cadre de la loi, ou des, etc. Mais le dispositif en tant que tel, enfin l'expérimentation en tant que tel, ne doit pas devenir un dispositif, parce que si tu fais un dispositif, tu le normalises, tu le standardises et tu perds complètement sa capacité créatrice d'adaptation au territoire, etc. Donc du coup, il y a un enjeu là à ne pas faire qu'une expérimentation qui produit de l'innovation sociale, de nouvelles formes d'emploi, des nouvelles activités, soit enfermée dans un dispositif.
C'est ça.
Une des questions, je voulais rebondir en posant ma question. C'était aujourd'hui, on a vu c'est par rapport aux activités, il y avait une obligation à ne pas être dans le champ concurrentiel, ni avec le service public, ni avec le marchand. Or, on voit bien que du coup, on développe des activités. Combien il y en a qui sont autofinancés, qui s'autofinancent et qui permettent de financer réellement le poste? Combien il y en a qui ne sont pas rentables financièrement? Et du coup, en multipliant ces activités, ça renvoie à multiplier des formes de soutien des activités non rentables, qui sont peut-être utiles au territoire. Mais du coup, comment on gère ça?
Il n'y a aucune activité en autofinancement. Aujourd'hui, 5 ans pour le
démarrage. C'est la réactivation des indemnités.
Voilà. Et nous, on estime qu'au mieux, on peut arriver entre 70 et 80% de subventions et 20 à 25% de chiffre d'affaires. Donc, on est sur des activités non rentables durablement. Et donc, ça veut dire qu'on accepte un financement pérenne ad vitam aeternam au niveau subvention.
Ça remplace pas les allocs, ça fait des allocations, des outils qui créent du salaire. Donc le salaire, ça contribue à alimenter les caisses de la retraite, etc.
Et souvent, ces gens, ils ne sont même pas pour l'emploi.
Oui. C'est déplacer l'argent de système d'allocation, donc d'un système de prise en charge, vers un système qui crée de la richesse, puisque cotise, social, etc. Ça, on l'a bien compris. Sauf que ça dépend à 70%. On voit bien, on entend dire que les transferts de ces allocations vers le fonds, ils ne se font pas encore, facilement. Non. Premier point. Deux, qu'à un moment donné, plus tu développes de l'activité, plus tu vas avoir besoin de subventions locales.
Oui.
Or, à un moment donné, comment tu fais dans un système où on remet de plus en plus en cause le fait qu'il n'y a pas d'argent dans les collectivités et qu'il faut arrêter de subventionner? Voilà, donc c'est un peu, tu vois, ces questions-là que ça pose. Est-ce que du coup, ça permet de réenclencher du dialogue là-dessus?
Ce qu'on s'aperçoit tout de même, c'est que sur 5 ans, on est toujours sur des volumes de financement subventionné importants, mais proportionnellement un peu à la baisse même.
Ah, ça, c'est
on arrive tout de même à augmenter les parts de chiffre d'affaires et on voit qu'on peut gagner en productivité, en rentabilité. Hein, ça, c'est clair. Donc, il y a des marges de manœuvre. Alors, en revanche, ce qu'on s'est aperçu clairement et qu'on n'imaginait pas depuis le départ, c'est que suivant la sociologie du quartier, donc si on vend les activités, ça influe beaucoup sur la part de chiffre d'affaires. Une activité qu'on vend 5 euros de l'heure à un endroit, si le quartier est très pauvre, peut-être que ce sera 4 euros là et 7,50 euros dans un autre quartier. Ça dépend du pouvoir d'achat des habitants. Et donc, c'est très variable. Et c'est là où si on normalise, on va tout faire capoter. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Sur la question de la concurrence, le maraîchage, oui, c'est quelque chose qui existe. En revanche, vendre des produits bio, faire de l'éducation à une population qui n'est pas habituée, ça n'existe pas. Ou personne ne s'est plaint, nous on le prend comme ça, personne ne s'est plaint de l'activité de la Fabrique de l'Emploi sur l'activité maraîchage. Donc, on n'a gêné personne. Voire même, on a envoyé des clients vers d'autres boutiques bio parce que on avait donné l'habitude ou le goût à. Et pareil sur la ressourcerie, le réemploi, ça existe déjà. Sauf que ça n'existe pas là. Et en revanche, le message qu'on veut faire passer, qui est aussi important que l'activité, c'est de dire attention, arrêtons de consommer pour consommer. Redonnons une deuxième vie aux objets. Limitons la consommation de produits nouveaux au strict nécessaire. Et donc, il y a tout un volet éducation. Alors, et ça, c'est nouveau, c'est non concurrentiel. Et c'est là où on prétend inventer pour partie l'économie de demain. Pour partie, en restant très modeste. Hein.
Troisième question.
J'avais une dernière question, qui est un peu en lien, et c'est sur le droit à l'expérimentation de manière plus générale, parce que, et ça fait aussi du lien avec pourquoi pas un dispositif, parce qu'on semblait que le droit à l'expérimentation, c'est ce qui avait permis de mettre en place le RSA. Donc, je me demandais si sur le territoire zéro chômeur, il y avait cette volonté de généraliser pour que ça soit dans la loi de mettre en place ce genre de choses. D'une part, et aussi est-ce que, et notamment, enfin, moi je vois c'est plutôt à l'agriculture, mais est-ce que vous avez la volonté de chercher à remettre en question le système aussi qui fait que les gens aujourd'hui n'ont pas d'emploi, parce que là on est sur des modèles du coup économiques qui ne fonctionnent que par de la subvention, si j'ai bien compris.
Oui, il y a alors.
Enfin, c'est pas
c'est du transfert de charges.
C'est du coup, mais enfin, il y a des raisons, en tout cas en agriculture, qui font que les agriculteurs ne s'en sortent pas, qui sont de l'ordre de traités internationaux, de subventions de la PAC qui sont orientées de telle et telle manière. Donc si on veut résoudre la question de la précarité des agriculteurs, il faut réfléchir de manière systémique. Et du coup,
Global et systémique. Là, on n'en est pas là. Hein, du moins, je prends l'expérience lilloise avec les gens investis dans l'animation locale, que ce soit la MEL, le BE et autres, chacun peut avoir son point de vue. Et de fait, les gens qui sont investis dedans raisonnent un peu comme toi. Mais ça n'a jamais fait l'objet d'un débat institué avec décision là-dessus. Parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, voilà où on en est à essayer de faire fonctionner ce qu'on a créé il y a 5 ans. Et les faire fonctionner le moins mal possible, parce que c'est quand même très compliqué et très fatigant. C'est pas un truc de bisounours, c'est pas vrai. C'est une prise de tête permanente. Si Guylain n'est pas là, c'est pour ça, quoi. Oui.
Demain, dans la diversité des activités, il y a de la livraison à vélo.
Oui.
Comment on fait pour financer est-ce qu'il y a une levée de fonds pour aller chercher des vélos cargo, enfin, voilà, comment ça se structure autour de cette activité?
Alors, ça encore, on peut avoir des subventions d'investissement ou de l'aide de fondation, voire d'entreprise. Donc ça, je dirais, c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème, mais c'est... Bon, ça, on devine un peu.
Est-ce qu'on peut mobiliser les cigales également?
Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, je vais te dire que le BE sur la MEL, donc il y a deux établissements, on l'a créé sur une associative avec engagement à la transformer en SIC, ce qui a été fait 2 ans après. Donc actuellement, nous sommes une SACIC avec les Lamelles, la ville de Tourcoing, la ville de Loos au capital, les fondateurs, différentes associations. Et les salariés. Il y en a 35 qui sont sociétaires. On aurait aimé plus, mais on estime que c'est déjà pas mal. 35 sur 130, on est sur un gros quart, quoi. Enfin... Ouais.
Tout à l'heure, vous disiez devenir un dispositif, c'est mourir. Du coup, comment vous envisagez la pérennisation?
Ah oui, c'est la question.
Comment vous envisagez la pérennisation sans devenir un dispositif? Comment une expérimentation qui dure pour le autrement?
On ne parle pas de généralisation. On dit que tout territoire, aujourd'hui, il y a au moins 50 territoires qui peuvent accéder. Et on se dit qu'à terme, il faudrait que tout territoire qui souhaite accéder et qui est prêt doit pouvoir le faire. Et donc il y en aura 100, 150, 200, 3000, je ne sais rien. Mais peut-être que tout le territoire ne sera pas couvert, et ça, ce n'est pas grave. Donc, et c'est en ça que ce n'est pas un dispositif, c'est une expérimentation, et ça doit rester des expérimentations locales, avec des différences locales. Oui.
Peut-être là-dessus. Complément de réponse, quand même. Moi, je pense que pour pérenniser, il faut se battre pour que soit reconnu l'engagement de l'État pour soutenir les collectivités locales qui veulent le mettre en place. Parce que c'est des collectivités locales qui le mettent en place, c'est des municipalités. Donc, déjà, qu'il y ait un engagement de l'État dans l'aménagement des territoires, ils ont des politiques d'aménagement qui reconnaissent l'expérimentation comme un outil intéressant et qui garantissent ça. De faire en sorte que les outils qui sont développés pour le mettre en place soient pérennisés et sanctuarisés. Un statut juridique pour le BE, c'est déjà le cas. il existe, donc aujourd'hui n'importe qui peut s'en servir et monter une EBE, il y a un statut juridique. Les moyens de financement, enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent être créées dans le cadre de l'expérimentation, qu'on peut dire ça c'est intéressant de le sanctuariser. Et c'est, si on a la boîte à outils et une volonté de l'État de soutenir les collectivités, alors c'est ce que produira les EBE, ce que produiront ce type d'activités qui feront qu'elles se développent et qu'elles se généralisent. C'est pas le dispositif.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Et je voulais juste ajouter une précision là dans le fonctionnement, c'est qu'une fois que les salariés, enfin, les volontaires, demandeurs d'emploi sont devenus des salariés, un certain nombre continue à militer dans ce qu'on appelle le comité local pour l'emploi,
oui.
et continue à faire du porte-à-porte pour, oui, sensibiliser de plus en plus.
Exact.
Et aussi, ça ne concerne globalement que des territoires dans les quartiers prioritaires de la ville. Nous, nos micro-territoires, c'est 9000 habitants, 900 demandeurs d'emploi. Quoi. C'est énorme. Donc, je ne suis même pas au fait. Je crois que c'est plus de 1000 demandeurs d'emploi pour 900 habitants. Donc, ça concerne des territoires qui sont particulièrement atteints par...
Alors, il y a une bizarrerie. On voit bien que le projet, il avait été pensé pour du rural ou du semi-rural, avec un gros bourg et puis autour, pas grand-chose. Et donc, on arrivait à épuiser, à sécher complètement le chômage sur le bourg. Et c'était plus facile d'être en non-concurrence. Ça avait des tas d'avantages. Et ça a été pensé comme ça. Et on s'aperçoit qu'en milieu très urbanisé, comme c'est le cas ici, où on change de ville sans s'en rendre compte, c'est compliqué. Parce que on va peut-être assécher le chômage sur un petit quartier, sauf que celui d'à côté... Et ça,
oui, je sais.
Et donc, on ne voit pas bien les résultats que ça produit. On a du mal. Oui, mais. Oui, mais. 1,2 million d'habitants ici, hein, sur Amel. Donc.
Oui, mais pas 1,2 million.
Peut-être pas 1,2 million de quartiers pauvres, mais. Il suffit de se promener dans les Hauts-de-France et dans le Pas-de-Calais, il y a plus de quartiers pauvres que de quartiers bourgeois. Hein. On sent bien la pesanteur de l'industrie et du monde ouvrier, quoi. Et donc, c'est très compliqué. Donc, ça, on voit bien que c'est une des limites de la pensée. Et ça a été mis en valeur par les évaluations, d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas été complètement pensé. Et donc, là, il y a à inventer. Quoi. Et donc, une de nos questions, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, de temps en temps, pour certaines activités, aller faire soit une partie d'activité en dehors de notre territoire, ou de vendre en dehors de notre territoire. Parce que c'était pas dans l'orthodoxie, pourtant ça nous semblerait de bon sens. Bon, on n'a pas encore les réponses.
Il y avait une question tout à l'heure sur le droit à l'expérimentation auquel tu as partiellement répondu. Je crois que le droit à l'expérimentation, c'est déjà inscrit dans le droit français, mais qu'est-ce qui a permis pour ce projet-là, ils arrivent à le mettre en place? Parce qu'effectivement, à part le RSA et ça, il n'y a pas eu beaucoup de...
Le problème, c'est que le droit à l'expérimentation, oui, on peut pouvoir expérimenter pas mal de choses, mais expérimenter sans aucun moyen, c'est compliqué, hein. Et donc là, ce qui a été ajouté, c'est les moyens eux-mêmes. Et une règle de dérogation aux règles habituelles, tout de même. Donc on déroge. Hein. On sait que c'est un dispositif qui va durer 5 ans. On crée en cas des CDI. Voilà.
Et on espère se reconduit.
Oui, puisque là, on a été reconduit depuis 10 ans. Et bon...
Mais est-ce que j'ai envie de répondre en partie, c'est dans ce qui a permis le droit à l'expérimentation cette fois-ci, c'est quand même que dans les porteurs de projets, il y a des personnes connues, reconnues, qui ont des entrées dans les ministères, qui sont entendues. S'il n'y avait pas eu Grand Guillaume, ATD Carmon, on n'aurait peut-être pas eu. Si c'était un collectif local qui avait été dire à l'État,
on aurait expérimenté. Bien sûr. Bien sûr, tu as raison.
Bah ouais, je pense.
Oui.
C'est... Ma question elle est peut-être un petit peu technique, mais c'est sur la rémunération concrète des salariés. Quoi, hein.
Oui.
Alors, c'est de l'activation, effectivement, des ressources qu'ils auraient pu avoir ou qu'ils ont eues en termes d'allocation. Et est-ce que c'est l'équivalent?
Oui, non, ils ont un salaire. Ils ont un salaire.
Oui, non.
Il y a une
salaire. Salaire, c'est pas le salaire. Je continue la question. Hein. Est-ce que c'est, au lieu de recevoir les allocations, ils les reçoivent en salaire en quantité égale?
Non.
Alors, non, ok, ça me répond. Et d'un autre côté, jusqu'à combien de temps? Parce que.
Vitam aeternam.
Je vais terminer ma question. S'ils ont des droits qui qui sont sur 3 ans en ce moment, effectivement, est-ce que c'est dans le cadre d'être dans, des salariés dans une EBE, ils peuvent aller jusqu'à 5 ans? Mes deux aspects de question techniques.
En fait, non, les allocations ne couvrent pas la totalité du salaire qui leur est versé. Donc, ils sont embauchés.
Donc, on fait table ronde des allocations. Oui. Ils ne touchent plus les allocations chômage. Ils touchent.
Ils ont un contrat de travail et ils ont un CDI dans l'entreprise.
Et donc, le fait qu'ils aient des indemnisations, ça leur ouvre les droits à être salariés.
Bien sûr.
Dans le BE, c'est ça?
C'est ça. Alors, ce n'est pas les allocations chômage, hein, c'est les allocations.
Non, c'est toute allocation.
C'est allocation familiale, RSA, etc.
Mais
c'est juste ça, c'est un transfert de charge. C'est-à-dire qu'eux, ils sont embauchés en CDI un minimum au SMIC au démarrage. Après, ça évolue puisqu'ils vont rester dans une entreprise comme tout salarié.
Pour le moment, ça évolue pas. Hein.
Bah oui,
c'est pas prévu. Mais ça devrait être l'étape suivante.
Ça devrait être prévu
oui, oui.
À terme.
Oui, absolument, absolument.
En tout cas, ils sont embauchés dans le cadre d'un contrat de droit commun, CDI normal, donc pour une durée indéterminée, et à un salaire minimum qui est le SMIC.
Oui.
Une partie de ce salaire-là est compensée par la réattribution des allocations qu'ils auraient pu toucher s'ils étaient restés dans leur statut d'origine, sans droit compensatoire. C'est-à-dire, c'est pas, tu avais 3 mois de RSA, alors on te fait ton CDI pendant 3 mois, tu toucheras et puis après on ne touchera pas. Non, c'est une compensation.
Mais j'ai pas les toutes dernières statistiques, mais sur les affaires de l'emploi, sur l'os et Tourcoing, les salariés recrutés avaient en moyenne 54 mois de chômage. Et certains n'avaient jamais travaillé. Et d'accord. Parmi les 54 mois de chômage, il y avait des petits boulots de quelques heures par-ci, par-là. Donc, la majorité n'avait plus d'allocation ou un peu d'ARE ou je ne sais pas trop quoi.
Et donc,
beaucoup de RSA.
Ce qu'on sait déjà, c'est que de toute façon, dès le démarrage, quand on les emploie en CDI, il y a une partie qui est non compensée par les allocations. Les allocations, elles ne correspondent pas à...
C'est l'entreprise qui assure ça.
Donc c'est le BE qui va trouver des financements pour assurer le complément.
Mais
hein,
après, quand l'expérimentation se termine,
Normalement,
c'est l'entreprise qui prend le relais. Et
elle ne se termine jamais.
Pardon ?
Le but, c'est qu'elle ne se termine jamais. Ouais. Ça veut dire que si on veut, si on veut aller jusqu'au bout de la logique...
Non, sauf que pendant 5 ans, il y a des aides, mais au bout des 5 ans, l'entreprise, elle n'a plus d'aide.
Non, soit ça s'arrête, et dans ce cas, on doit licencier tout le monde.
Bah, ça peut être un licenciement économique.
Oui, bien sûr.
Ouais,
oui,
exactement.
Ça peut s'arrêter. Mais le but, c'est pas ça. C'est de faire pression sur les pouvoirs publics pour que ça ne s'arrête jamais. Et donc, qu'il y ait une sanctuarisation du fonds d'aide et du mécanisme qui permet de l'alimenter par le RSA,
sauf
par...
Pour l'employeur, il n'y a pas de garantie. Il va peut-être être le seul à tout financer.
L'employeur reçoit une partie de salaire...
Pendant 5 ans.
Si ce n'est pas renouvelé, c'est ça qu'elle veut dire.
Ah ben, si ce n'est pas renouvelé, ça s'arrête.
Ah, voilà. L'employeur doit quand même savoir que...
Excusez-moi. On se laisse encore 5 minutes pour
D'accord.
Finir.
D'accord, monsieur. Ah, ça peut s'arrêter au bout de 5 ans, oui.
Mais j'ai compris qu'il n'y avait pas que ce paramètre-là, évidemment.
Mais c'est bien pour ça que là, il y a toute une activité politique et que c'est très important d'avoir des élus investis et mobilisés pour en permanence faire pression partout où ils sont pour que ça ne s'arrête jamais.
Excusez-moi, mais du coup, si vous sanctuarisez, vous donnez un dispositif à un moment ou à un autre.
Non, un dispositif, c'est quelque chose de normé. L'IAE est devenu...
Vous donnez de l'argent sans normer.
Non, à l'origine de l'IAE, ça s'inventait dans tous les sens. Des choses qu'on n'imagine même plus aujourd'hui. Et après, on a normé en disant un chômeur, c'est ça et c'est pas autre chose. Vous devez le sortir au bout d'autant de temps. On va vous financer sur les sorties positives. Ça, c'est un dispositif.
Les dérives des autres dispositifs.
Oui, l'IAE. J'entends la dérive de l'IAE, l'envie de revenir.
Et ben là.
Pour pas qu'il y ait des dérives, mais en même temps.
Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver.
Oui, non, mais je ne veux pas non plus. J'entends bien. Mais,
oui, on va dire qu'on va y arriver. Oui.
Peut-être trouver un autre mot que sanctuariser. Enfin.
Oui, puis ça se passera pas comme ça.
Pérenniser un non-dispositif.
Mais a priori, ça ne revient tout de même pas plus cher ou pas beaucoup plus cher. C'est pas les mêmes qui payent, au moins à un moment donné. Quoi. C'est tout.
Est-ce que sur le peu de temps qui nous reste, tu peux répondre à la question d'Isabelle sur articulation entre territoire zéro chômeur et régie quartier?
Ah oui, ça c'est une bonne question. Alors, moi, personnellement, je suis un grand ami des régies de quartier. J'en ai monté, évalué déjà beaucoup. Et donc, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Parce que, par certains côtés, ça ressemble. L'aspect territorial, l'aspect co-construction entre habitants, politique publique, acteurs économiques locaux. Donc, on est sur le triptyque des régies. Donc, ça ressemble. Après, je sais que le mouvement des régies de quartier est très réticent.
Ils sont en concurrence ?
Non, c'est qu'il y a eu... Alors, vous ne le répéterez pas, je me jurerai de ne pas le répéter, mais il y a eu, dans les 10 premières expérimentations, un certain nombre de territoires qui ont été forcés pour être tenus, et c'était du forçage politique, et on a où il y avait une régie de quartier, et on a détourné de l'argent qui était pour aller alimenter. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et donc, on dit non concurrence, non concurrence, mais... Je vous réattribue à marché public. Voilà. Et donc, je comprends parfaitement les régies là-dessus. Et d'autre part, il est légitime. La grosse force des régies, c'est tout de même que ça a été des initiatives d'acteurs privés qui se sont imposées à l'État. Puisque le label Régie de quartier, c'est un label privé qui est reconnu par le Code du travail. Là, on est vraiment dans la société civile qui s'affirme. Territoire zéro chômeur, ça ne vient pas tout à fait de là. Et donc, on voit bien qu'il faut tendre du système. En revanche, moi, je pense qu'il y aurait à gagner à avoir des expérimentations conjointes, régies de quartier, TZC, et de regarder honnêtement ce que ça produit en complications et en gains. Et après, de voir. Mais ça, on verra. Ça se produira un jour. Hein.
Est-ce que ça ne pourrait pas se faire dans le cadre de... Je crois que les régies de quartier, ils développent maintenant les régies de territoire.
C'est autre chose, les régies de territoire. C'est en milieu rural. Ouais. Non, je pense que c'est sur les régies de quartier, mais il faut avoir la bonne articulation, bonne conjugaison d'acteurs.
Est-ce qu'il se passe dans une régie de quartier ?
Ouais.
Une
régie de quartier, c'est à l'échelle d'un quartier, on va voir comment on peut développer des activités réalisées par les habitants du quartier au service du quartier. Donc ça va être... entretien des espaces verts, recycler les déchets, du service à domicile, du service scolaire, voilà. Donc c'est donc une régie, c'est pensé par les habitants, pour les habitants.
Alors, sauf qu'il y a une différence, c'est que les activités des régies sont pleinement sur le marché, au prix du marché, et quelquefois même un peu plus chères que certains.
Et donc
on est sur du marchand.
C'était pas comme ça.
Et qu'elle développe à côté de ça des activités de type social ou citoyenne qui sont là complètement déficitaires, mais alimentées par les gains faits sur le marché. Alors on voit bien que c'est pas tout à fait le même modèle que Territoire Zéro Chômeur.
C'est pas le modèle d'origine. À l'origine, elles étaient beaucoup subventionnées et petit à petit, on les a mis dans des logiques d'appel.
Elles se sont mises.
Ouais, mises avec les collectivités,
forcées. Non, mais toute la doctrine, c'est entreprise en vraie grandeur. Et on ne vend pas les heures de salariés de régie à 12 euros, comme ça s'est fait dans l'IAE à un moment. On les vend à 25, 20, 28 euros de l'heure, quoi, comme le ferait l'artisan du coin.
Mais on les vend à des collectivités.
À des collectivités, à des entreprises, à des bailleurs.
Non, mais c'est souvent négocié avec...
C'est négocié.
Dans les quartiers, c'est souvent des quartiers politiques de la ville.
Oui.
Il y a un accompagnement. C'est souvent négocié avec les bailleurs sociaux, quand même.
Oui.
Souvent,
c'est
pour marcher mieux. Nous, on n'était pas sur les bailleurs sociaux. Elle a dû avoir un modèle économique qui a dû varier après. Mais souvent, pour commencer,
on négocie
avec un bailleur social. Tout de suite, tu as un certain volume d'activité qui est créé. Quoi. Moi, où j'habite, dans un quartier Curial-Cambrai, de l'autre côté d'Ancenième, c'est les régies de quartier qui font les entretiens localement, quoi.
Oui.
Franchement, nous, on a des tours, on a une dizaine de tours de 18 étages avec une grande barre.
Tu es dans quel quartier ?
Curial-Cambrai. Moi, où j'habite, c'est Curial-Cambrai. C'est pas la régie que j'avais accompagnée.
D'accord.
De la ville.
Oui, et d'accord.
Coup, c'est vrai que moi, localement, en tant qu'habitant des tours, ça, franchement, à partir du moment où c'est la régie de quartier qui a géré l'entretien, ça a changé du tout. C'est vraiment... Quand tu vis localement... C'est différent d'un service de la ville qui va venir de temps en temps. La régie de quartier, là, ses locaux qui étaient à côté maintenant de l'école de la cité. Ça fait vraiment une vraie différence d'entretien, de qualité et de relation, quoi, vraiment. Mais après, selon les régies de quartier, souvent, tu as des marchés quand même, effectivement, soit des fois avec la ville. À Fontaine-Roi, on a été les premiers à négocier avec les entretiens, les espaces verts. Alors, c'est pas simple, hein. Parce que ça va être en concurrence, mais on avait un petit marché de sur-entretien. Sur-entretien, en plus, oui. Nous, mais du coup, on a deux personnes qui sont embauchées.
Mais voilà. C'est extraordinaire les quartiers. C'est, à mon avis, c'est une des réussites. Ce sont des réalisations d'économie solidaire les plus abouties pour certaines.
À Tours, apparemment, le territoire de chômage et de l'énergie de quartier, ça marche bien. Enfin, ils ont
c'est possible.
Des travaux apparemment en commun, où ça marche bien.
Sur, ici, il y a un projet sur le bassin minier à Bazin-Garbe, où normalement ça devrait s'articuler aussi. Hein,
quand est-ce qu'ils vont avoir leur réponse pour ceux qui ont déposé un projet ils sont émergents, mais quand est-ce qu'ils savent
à Lille, ils ont eu, comme quoi ils devaient revoir un peu leur copie. Bazin-Garbe, on ne sait pas, ça devrait...
Et Bailleul, parce que je les ai questionnés.
Bailleul, ce n'est pas tout de suite, parce que je crois que leur dossier n'est pas top.
La bonne nouvelle, c'est que ça continue, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de pause, parce qu'on a commencé en retard.
Non.